Bienvenue sur ce téléenseignement du maître Cristal Chaya.
Bonjour mes disciples co-créateurs.
Chère communauté, amis stagiaires, bonsoir.
Elle a fait de l'amour des autres sa raison d'être.
J'ai les recettes, j'ai les rituels.
Quand j'ai perdu tout espoir, c'est là que j'ai essayé l'Ayurveda.
Ce Bruno-là en question, il commence à me montrer les produits, etc.
On nous a fait croire qu'une pandémie existait.
Chemtrails. Vous ne pouvez pas avoir un vaccin qui marche si vous n'êtes pas dans une bonne forme.
Phenomena of chemtrails.
Ils changent de vie et en fonction de ça, les maladies disparaissent.
Et de nous sortir de ce chaos et de retrouver un peu de joie, de bonheur et de bien-être.
Conspiritualité, un podcast de Julie Scheibling, réalisé par Margot Page. Épisode 3, l'expérience Cristal Chaya.
C'est à l'automne 2020 qu'avec Sophie, on est parti dans le Jura faire ce stage avec le mouvement Cristal Chaya. Je ne me rappelle plus honnêtement de l'intitulé précis, mais c'était beaucoup autour de l'énergétique et autour d'une respiration solaire.
Solaire dans le sens où elle est active. C'est une respiration de feu.
Respiration solaire qui est en fait une respiration accélérée qui amène à une hyperventilation et qui permet d'aboutir à un état modifié de conscience.
Souvent quand on accompagne les personnes, elles sont là en train de dire « je suis en train d'étouffer, je vais mourir ». Bah, respire dedans, je leur dis. Traverse. Parce que quand tu respires dedans, quand tu traverses ce champ émotionnel, en même temps que tu te laisses traverser par cette émotion que tu as tellement retenue, eh bien, tu crées l'antidote.
Ce qui est censé favoriser l'accès à des choses qui sont un peu cachées quoi, dans notre inconscient. Et ça nous permet d'accéder, à, un peu comme quand on rêve, quoi, à des choses auxquelles on n'a pas accès habituellement.
Tu fais remonter finalement tous les vieux programmes qui ont besoin de sortir, que tu as besoin de libérer. C'est une sorte de délivrance qui se fait. Ça demande un investissement. Ça demande de se donner totalement, de s'offrir totalement.
À la tête de ça, il y a une certaine Rosanna Narducci qui se dit en fait le canal originel de Cristal Chaya, c'est-à-dire cette notion qu'il y a des êtres qui ne sont pas sur Terre et qui délivrent des messages à nous qui sommes sur Terre. Et donc, Rosanna Narducci, elle est canal de Cristal Chaya. Donc, par son biais, on peut accéder aux enseignements de Cristal Chaya. Et Cristal Chaya, c'est en fait, il est défini comme le gardien de la Terre, un des gardiens de la Terre. Et il est dit que c'est un moment actuellement où il est à nouveau présent dans le système solaire à la demande de Maitreya. Alors Maitreya, je ne sais pas, je n'ai pas compris qui c'était.
Pour beaucoup, c'est le Messie. Dans le bouddhisme, on l'appelle Maitreya.
Il serait le fils
dans
de Shiva et,
le Mahdi.
Et du seigneur de l'Olympe.
C'est la personnification même de la grande sagesse, de l'accomplissement finalement. On peut le comprendre comme ça. Et qui va transmettre ça à l'humanité pour sa rédemption, pour sa libération.
Et en fait, la proposition, c'est d'être dans le « je suis » comme moyen de guérison de la blessure de l'humanité terrestre. Voilà, donc tout ça reste assez obscur pour moi, mais donc il délivre des tas et des tas d'enseignements que Rosanna Narducci, délivre et essaye de nous faire mettre en pratique, essaye de faire mettre en pratique aux adeptes, en fait. En fait, sur cette planète d'Orion, il y a eu toute une vie et toutes les personnes, par exemple, qui étaient présentes à ce stage savent qu'elles ont vécu sur cette planète Orion dans une de leurs vies. Et qu'elles ont eu un rôle particulier. Elles étaient un des personnages de cette planète, quoi. Sophie, elle avait eu la révélation à un moment qu'elle avait été la maîtresse d'un personnage, alors je ne sais plus si c'était Satan, mais c'était quelqu'un qui se rapprochait de Satan, quoi. Donc à la fois c'était dur de prendre conscience de ça, parce que forcément c'est pas un rôle hyper sympa à première vue, mais du coup de ça, je ne sais plus ce qu'elle faisait comme lien et théorie sur son développement et son cheminement. Mais voilà, donc j'étais la seule dans ce stage à ne pas avoir conscience que j'avais vécu sur Orion et ne sachant évidemment absolument pas quel rôle j'avais bien pu y jouer et quel était mon personnage à ce moment-là, quoi. Ce qui m'a beaucoup surprise, c'est de voir à la fois à quel point, effectivement, les histoires étaient quand même assez rocambolesques quelque part, mais à quel point les gens étaient sympas pour la plupart et j'ai envie de dire entre guillemets normaux, quoi. Des personnes chez qui j'aurais bien été boire une bière et partager un bon moment, parce que vraiment il y en a qui étaient très très sympathiques dans la rencontre et qui avaient des vies, des métiers, des vies familiales, quelque part plus classiques que ce que moi je peux avoir, quoi. Enfin, et ça, c'est vraiment surprenant, ce décalage entre des personnes avec qui on peut avoir des discussions tout à fait lambda, et puis qui, quand elles commencent à parler de Crystal Chaya et à être dans la dynamique du stage... partent dans des histoires que moi, je n'arrivais pas à suivre, quoi. Le fait d'aller au stage, j'ai quand même eu la sensation qu'il y avait quelque chose de l'ordre d'une secte, quoi. Même un peu dans le décorum ou la façon dont Rosanna Narducci se présentait. Par exemple, elle, quand on était assis en cercle, elle était toujours dans un petit fauteuil. Et nous, on était assis par terre. Elle était sur ce fauteuil. Et puis, elle était habillée d'une façon, moi, qui me faisait penser à des images de secte, quoi, que j'ai dans la tête.
J'ai pas le souvenir précis du moment où elle m'annonce qu'elle revient d'un séjour sectaire, mais je me rappelle que j'étais estomaqué, puisqu'elle me... Elle me raconte un peu ce qui s'est passé et voilà, elle est entourée de gens qui prétendent entourer Crystal Chaya, du coup, qui est une forme de réincarnation d'une personne qui serait née sur une autre planète, venue sur Terre avec une mission bien précise et entraînant dans son sillage tous les convaincus prêts à le suivre jusqu'au bout du cosmos. Donc elle me raconte ça. Et je me dis, oula, mince, là, vraiment, c'est une secte 100%.
Il y avait tout un commerce qui se faisait en parallèle de crânes de cristal.
Vous avez ici un crâne maître qui est Matrix. C'est le crâne de Crystal Chaya.
Il y a une fille qui s'était lancée là-dedans et qui arrivait avec, dans ses valises, des crânes de cristal de toute taille, de toute couleur.
Le crâne de Mitchell Hages, Matt Max. Nous avons ici un crâne en eudialyte. C'est très rare. Il supporte, on va dire, ou il porte le manteau du système d'Orion.
Et qui les vendait aux stagiaires, en fait. Enfin, Et Sophie avait, elle aussi, toute une team, comme ils disent, donc plusieurs crânes de cristal qu'elle s'était procurés et qu'elle avait chez elle et avec lesquels elle faisait des soins énergétiques pour elle-même. Et puis, l'aspect des prix, quoi, parce que moi, je ne sais plus exactement combien j'ai payé pour ce stage, mais c'était au moins dans les 500 euros. Là, c'était seulement un week-end, mais surtout, c'est cette accumulation de propositions, de stages, de voyages aussi. Ils proposent régulièrement des voyages à l'étranger pour aller voir les Croc Circle, par exemple. Ces dessins géométriques qui sont dans les champs et qui, a priori, seraient faits par des extraterrestres.
Chaque année, de mystérieuses empreintes apparaissent comme par miracle dans des champs de céréales en l'espace d'une nuit. La plus forte concentration se produit en Angleterre, non loin de la zone énigmatique de Stonehenge. Les Anglais appellent ce phénomène « crop circles », les cercles de culture.
Et donc, il y a des voyages qui sont organisés, du coup, d'une semaine à peu près. Et donc, bon, bah, des stages comme ça, là, c'est dans les 4 000, 5 000 euros, par contre. Parce qu'il bah, y a le voyage, il y a l'enseignement, et puis tout, enfin, la vie là-bas, etc., quoi. Le fait d'avoir fait le week-end, d'avoir été en présence de, bah pour le coup, de ces énergies, quoi, et de ces discours et de ces pratiques. Mais moi, ça ne me parle pas du tout. Et je me suis dit que, en tout cas, moi, je n'avais rien de commun avec ça. Ça ne résonnait pas du tout pour moi. Donc, ça n'avait aucun intérêt que je continue à dépenser de l'argent pour. Pour continuer à essayer de comprendre ce que c'était que cette histoire dont me parlait Sophie depuis longtemps. Et que si elle, visiblement, ça résonne bien chez elle, ce n'était pas mon cas du tout. Et puis, de percevoir que, en fait, ce mouvement est complètement en lien avec les théories du complot. Comme c'était au moment du Covid que j'ai fait le stage, en fait, et les soins énergétiques, la théorie du complot, elle a quand même pas mal explosé à ce moment-là. Enfin, elle s'est renforcée pour bien des personnes. Et donc Sophie, elle m'en parlait souvent. Mais là, j'ai vu que c'était pas que Sophie, c'était en fait toutes les personnes qui étaient là, à commencer par la tête des personnes qui étaient là, qui parlaient des vaccins, qui parlaient des masques, des limitations de sortie, etc. Enfin, tout le contexte vraiment pendant la crise du Covid, tout ça, c'était des manipulations pour justement nous empêcher d'accéder à notre être solaire, comme ils disent, nous empêcher de contacter notre potentiel divin et de nous réaliser, quoi. Et donc, eux, luttaient contre ça, et un peu comme s'ils étaient dans une course contre la montre, qu'il fallait que chacun travaille à son développement personnel, à monter son taux d'énergie, à nettoyer ce qui devait être nettoyé, pour que le bien gagne et que le mal perde, quoi. Et là, ça me refaisait penser à Star Wars, et, les bons, les méchants, et la guerre entre les deux, quoi. Risque avec toutes ces méthodes actuelles qu'on s'approprie de pays, de contrées qui ne sont pas du tout les nôtres, donc des cultures qui ne sont pas les nôtres, c'est pas évident en fait de s'approprier ça et en plus de pouvoir le retransmettre à des groupes. Il y en a quelques-uns qui y arrivent et puis d'autres qui, ce que j'appelle jouer aux cow-boys et aux indiens, quoi, c'est-à-dire on fait semblant qu'on sait de quoi on parle et qu'on y croit et que. Et puis dans ces groupes-là, si ce n'est pas bien tenu, il peut aussi rapidement y avoir des gens qui viennent et qui sont complètement paumés et qui cherchent on ne sait trop quoi. Notamment en tantra, ça peut vite, je pense, amener à des dérives, quoi.
Ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans un laps de temps de 6 mois, un moment où en fait elle est en perte de repères, elle est en changement, je trouve qu'il y a beaucoup d'indices concordants pour dire qu'elle est entourée de gens qui sont un peu barrés, quoi. Et que c'est ça qui m'inquiète.
Conspiritualité. Une émission à suivre sur Radio Campus Paris et à retrouver sur radiocampusparis.org. Un podcast de Julie Scheibling. Réalisation Margot Page. Musique originale Mathilde Boulanger.